Chapitre 47. Après la mort atroce de Crayeux, Calvert devint foudragé de chagrin. Le regard halluciné, il poussa un rugissement qui aurait fait trembler un loup de peur. Puis il lâcha sa hache d'une main et dégaina son coutelas. Quand il eut décapité le Selka le plus proche, la reine recula souplement, une ballerine aquatique aussi élégante que meurtrière, ainsi qu'en témoignait le sang du chaman sur ses griffes. De sa gorge monta un sifflement qui, chez quelqu'un d'autre, aurait été un rire moqueur. D'un nouveau bond, elle esquiva le tranchant de la hache et atterrit souplement sur ses pieds palmés. Comme un taureau furieux, Calvert chargea, son arme balayant l'air comme une faux, mais elle se joua du danger. Parfois, sur un champ de bataille, Bannon plongeait dans une transe qui faisait de lui une machine à tuer. Après, il n'avait aucun souvenir de ses actes. Mais les cadavres de ses ennemis parlaient d'eux-mêmes ainsi que les nombreuses blessures qu'il récoltait sans savoir comment. Calvert était dans cet état de folie furieuse. Trois Selkas tentèrent de le maîtriser, mais il les tailla en pièces. Puis il lança son coutelas sur la reine qui se baissa juste à temps. Frôlant son dos, l'arme alla se ficher entre les omoplates d'un Orukai qui ferraillait contre un Selka. Lançant une main derrière lui, le pillard tapota le manche du couteau comme s'il se demandait ce qu'il fichait là. Opportuniste, son adversaire en profita pour lui déchiqueter la gorge. Au milieu du chaos qui régnait sur la galère, Bannon était désormais libre, sa chaîne toujours entre les mains. Pariant qu'il ne survivrait pas à cette boucherie, il était pourtant prêt à se jeter dans la mêlée. Lila aussi était prête. Arrachant une épée à une main sectionnée qui gisait sur le pont, elle flanqua un coup de pied dans l'immondice puis lança à Bannon « Trouve-toi une arme, mon gars !» Ta jolie reine ne veut peut-être pas te tuer, mais les Norokai seraient moins complaisants. » Lâchant la chaîne qu'il dut tirer avec lui, le jeune escrimeur courut jusqu'au cadavre d'un esclavagiste et le délesta de son épée, dont il éprouva aussitôt l'équilibre. « Ce n'est pas solide, mais ça ira !» Le poids de l'acier dans sa main le rassurait, et c'était déjà ça. Deux Selkas approchèrent assoiffés de sang. Dès qu'ils reconnurent Bannon, ils filèrent en quête d'une autre proie. Toujours attachés, les autres esclaves gémissaient de terreur.
Lila, ce n'est pas notre combat. Laissons les Selkas et les Norokai régler leur compte. Et couvre-moi pendant que je libère nos compagnons afin qu'ils puissent se battre.
Lila obéit, résolue à embrocher tout fâcheux qui approcherait. Commençant par les cordes, Bannon les coupa avec sa lame. Dès qu'il eut terminé, Lila distribua aux esclaves des couteaux qu'elle était allée récupérer sur des cadavres.
Délogez les fixations de vos chaînes avec ça,
ordonna-t-elle. Toujours foudrage, Calvert rugit de nouveau, puis il beugla.
« Crayeux ! Crayeux était mon protecteur !»
Oublieux de tout, le roi poursuivait la reine des Selkas qui virevoltait parmi les combattants.
« Oui, Crayeux était mon ami !»
La reine s'écarta, le tranchant de la hache lui égratignant à peine l'épaule. Du sang coula néanmoins sur ses écailles et les rayons épineux de sa tête et de son dos vibrèrent d'indignation. À force d'obstination, Calvert parvint à acculer son adversaire au bastingage. Loin d'être piégée, la Selka se jeta simplement à l'eau, qu'elle fendit avec sa grâce habituelle avant de disparaître sous une vague ourlée d'écume. Sa proie perdue, Calvert beugla à s'en casser les cordes vocales. Sur les deux autres galères, les combats continuaient, et là, les esclaves n'avaient pas de protecteur. Balayant le pont du regard, Bannon estima que 50 Selkas au moins avaient trouvé la mort, sans compter ceux qui étaient tombés à l'eau. Chez les Norokai, les pertes étaient aussi lourdes. Dans l'eau, des Selkas festoyaient sur des cadavres de pillards. D'autres hommes poissons s'accrochaient à la coque pour venir aider leurs semblables. Sur le pont rouge de sang, Lila continuait à monter la garde. Sur son visage aux traits tirés, Bannon ne lut aucune peur, et elle était plus belle que jamais. Décidément, pour révéler la véritable nature d'une Morassite, il n'y avait rien de mieux que la violence.
« Je suis content que tu sois là !»
lança Bannon. Un peu plus loin, quatre Selkas attaquaient l'ignoble Gara. À coups de poing, elle en assomma un, puis en embrocha un autre avec son épée. Mais les deux survivants lui sautèrent dessus et plantèrent leurs dents dans ses épaules et ses flancs. Alors qu'il la dévorait vive, elle continua à se battre, puis elle finit par basculer dans l'eau avec ses bourreaux, vite rejoints par d'autres monstres avides de sang frais. À la lumière de la lune, l'eau était rouge de sang. Soudain, et contre toute attente, les Selkas s'éparpillèrent en criant de terreur. Dans l'eau, leur reine lança un terrible cri de défi. Sous la surface, une ombre immense se déplaçait lentement, Puis une très longue nageoire dorsale émergea de la mer entre deux galères et fondit sur les Selkas qui tentaient de s'enfuir.
« Douce mère la mer !»
s'écria Bannon. Une tête de serpent géant venait d'émerger de l'eau, recrachant de la vapeur avec les narines. À première vue, le reptile marin était au moins aussi haut que les galères, m'a compris. Ses branchies frémissant et ses nageoires ébranlant, la créature rugit de colère, puis, à la vitesse d'une vipère, se détendit comme un ressort et goba quatre Selkas qui n'avaient pas filé assez vite.
« Le dieu serpent !»
braillèrent les Norokai.
« Le dieu serpent !»
Sur les trois ponts, les esclavagistes reprirent du poil de la bête, et les Selkas, terrorisés par le monstre marin, furent obligés de reculer. Était-ce le sang versé qui avait attiré le prédateur marin? Ou le sacrifice de l'esclave au coucher du soleil? Bannon aurait su le dire et il ne voulait pas le savoir. Comme un renard dans un poulailler, le monstre fondait sur ses proies à la vitesse de l'éclair. Sur les trois ponts, les Norokai taillaient en pièces leurs adversaires, tétanisés par l'apparition du dieu serpent. Coincés, les Selkas ne pouvaient pas se jeter à l'eau puisque le reptile tueur les y attendait. S'offrant un baroud d'honneur, les hommes-poissons tuèrent encore quelques Norokai avant de succomber. Dans l'eau, c'était la débandade. Dans la furie de la bataille, les esclavagistes jetèrent par-dessus bord des dizaines de cadavres aux ennemis. Insatiables, le reptile les dévora tous. Convaincus de ne faire qu'un avec le dieu serpent, les Norokai lui offraient leur sang dès qu'une occasion se présentait. Sans hésiter une seconde, ils jetèrent aussi à l'eau les cadavres de leurs frères d'armes. À la proue de la galère amiral, Calvert n'avait rien à faire de la victoire. Tombé à genoux, il serrait contre lui le cadavre éviscéré de Crayeux.
« Mon Crayeux !»
sanglotait-il, son torse puissant souillé de sang.
« Mon ami !»
Soudain muet, les Norokai reculèrent quand la tête du serpent géant apparut juste au-dessus de la proue, du sang coulant de ses crochets. Rivant les yeux sur Calvert, le monstre ouvrit la gueule pour exhiber les lambeaux de viande qu'il n'avait pas fini d'avaler. Conscient du désespoir de Calvert, il lui faisait une proposition très claire. L'avorton serré contre sa poitrine, le roi hésita, l'âme et le cœur déchirés. Puis il leva la tête et croisa le regard du dieu serpent.
« Il est à toi. Crayeux est une part de toi et de nous. »
Très délicatement, Calvert posa la dépouille de Crayeux sur le pont. Puis il s'écarta. Se penchant, le reptile prit le cadavre du chaman dans sa gueule, en douceur, comme pour lui rendre hommage. Puis il le lança joliment dans les airs, ouvrit la gueule en grand et le goba d'un seul coup. Après un long moment passé à dominer les trois galères, comme pour rappeler aux Norokai qui commandait qui, le monstre s'immergea de nouveau et s'éloigna sans hâte. En soupirant de soulagement, les Norokai entreprirent de compter leurs morts et de soigner leurs blessures. Dans la mer, où flottaient encore des cadavres, des requins venaient déjà se régaler des restes du festin d'un dieu. Épée au poing, Bannon et Lila se tenaient toujours devant les autres prisonniers, prêts à mourir en combattant. À part une poignée, disposée à se battre avec des armes récupérées sur les morts, les esclaves se serraient les uns contre les autres en gémissant. Contre les pillards, les quelques résistants n'avaient pas une chance. Très éprouvés, les Norokai ne semblaient pas brûler d'envie de se battre encore, mais ils approchaient, menaçants. Calvert se fraya un chemin entre ses hommes et vint se camper devant les deux jeunes gens. En lui, quelque chose semblait brisé.
« Crayeux t'aimait bien, » dit-il à Bannon.
« C'est vrai, mais j'ignore pourquoi. Il m'a parlé de vision sans préciser ce qu'il avait vu. »
Dévasté par le chagrin, Calvert serra plus fort le manche de sa hache. Un coup d'œil à Lila suffit à Bannon pour deviner ses pensées. Devait-il se rendre ou se faire massacrer avec quelques esclaves comme seul allié? Même après les pertes de la nuit, les Norokai gardaient l'avantage du nombre et de loin. Lila était prête à mourir pour défendre son protégé et avoir la peau de Calvert. Mais Bannon refusait qu'elle gaspille ainsi sa vie.
« Ce n'est pas le moment, »
souffla-t-il. Calvert se tourna vers la Morassite.
« Je ne suis plus d'humeur à me battre. Mais s'il le faut, nous vous tuerons tous. »
Toujours tendue, Lila regarda Bannon, puis elle baissa son arme, mais sans donner l'impression d'accepter la défaite.
« Je ne veux pas qu'il te tue, mon gars. On réglera ça une autre fois. »
Alors qu'il rendait son épée, imitant Lila, Bannon se demanda si sa compagne n'était pas un peu trop optimiste.